était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Noble.
Journal vivant.
Construction.
Obéir à sa voix.
C'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.
Ici Anne-Sophie, je suis entourée de Pauline à la technique et qui fera aussi un des personnages. Il y a aussi Eva Natalia Grenier qui est l'autrice qui a écrit la saga radiophonique de ces derniers jours. On en est à l'épisode 4 et il y a aussi Léo à côté de moi. Bonjour à tous.
Salut.
Alors,
bonjour.
Merci Léo. Eva, où est-ce qu'on en est de cet épisode 4 de cette saga radiophonique? Elles y croient qu'elles peuvent voler.
Alors en fait, on est à l'épisode 4 de la saga Elles y croient qu'elles peuvent voler, qui est une saga radiophonique que j'écris pour le Théâtre de la Gamelle à Radio Canu. Donc on en est au quatrième épisode. Ce quatrième épisode s'appelle « Des gilets de sécurité sont situés sous vos sièges ». Ce qui se passe, c'est que c'est l'histoire de deux cousines qui se sont retrouvées et c'est un prétexte pour parler de tous les maux sociétaux à travers la prise en charge intergénérationnelle des maux sociétaux. Donc dans le premier épisode, les deux cousines se retrouvent, on apprend qu'il y a eu un enfant abandonné. Dans le deuxième épisode, on retrouve cet enfant, on le rencontre.
Il est grand déjà, qui
a 16 ans. Et dans le troisième épisode, cet enfant prend la parole. Mmh. Là, on est sur le quatrième épisode. Sur le premier épisode, on traitait un peu plus de la notion de révolte. Sur le deuxième épisode, on parlait un peu plus de la notion de consumérisme. Sur le troisième épisode, on parlait un peu plus de la guerre et de sa prise en charge. Et là, sur cet épisode-là, on parle de la rencontre amoureuse. La particularité de cet épisode, c'est qu'il n'y a pas de confrontation intergénérationnelle. On prend vraiment la problématique au sein de l'humanité tout entière et de l'humanité face
à l'amour,
et aux éléments extérieurs qui font qu'un être humain reste un être humain.
Peut-être juste on reprécise, les cousines c'est Elisa et Megan.
Tout à fait.
Qui a été enceinte de ces deux personnages?
C'est Megan.
Qui a eu un enfant qui s'appelle
Jean.
Qui a 16 ans aujourd'hui. Et là on va retrouver un personnage qui s'appelle Samy.
Tout à fait.
Dont on avait parlé dans l'épisode 1.
Tout à fait.
Qui était un des amis d'enfance de Megan et Elisa.
Qui était le premier amour d'Elisa.
Voilà. Ok. Très bien.
On ne sait pas qui est le père de Jean. On va le découvrir dans cet épisode.
Ok. Eh bien, j'espère que pour tout le monde, c'est bon. On va pouvoir commencer ce quatrième épisode. Et ça commence évidemment par un petit prologue musical. Ils avaient attrapé leur quota en 6 jours et rentraient à Sandpoint, leur vivier plein d'or rouge. 72 unités par remontée de moyenne. Ils n'avaient jamais fait une si belle pêche. Les vagues avaient été dangereuses. Un écrou avait failli les garder à quai, mais le moral était resté. Et il avait grandi au fil des nuits blanches et des immenses crabes, à la bonne taille, sans bernacle. Retentissant sur l'aplat en acier qui les accueillait au déversement des paniers. les pinces en l'air et la danse des hommes, dont le cœur se resserre à chaque fois que le butin remonte et que la surprise est bonne. Ils ne savent jamais à l'avance ce qu'ils vont remonter, quand la nacelle tire mécaniquement la cage d'acier et que, petit à petit, l'objet du désir se montre, les pattes en avant. Quand il est avec plein de copains, les palpitations s'intensifient et resserrent la gorge, qui ne se contrôle plus, écrit et chante et prend le corps et danse fort. Une dizaine d'hommes, pleins de testostérone, des musclés, des qui tirent avec les bras, qui dansent en voyant débarquer des crustacés. Il avait toujours été surpris de cet éclat de joie. En 10 ans, il ne s'y était pas habitué. On ne s'habitue jamais. La mère, elle est toujours là pour te rappeler que c'est une femme sauvage. Sur le chemin du retour, sous la timonerie, ils sont tous chacun dans leur tête à entrevoir ce qu'ils feront une fois sur terre. Le repos, la relâche. Lui, il rentrera chez lui en attendant la prochaine marée. Il gagne beaucoup d'argent. À la base, c'était le but. Puis c'est l'aventure qui a pris le pas. L'argent, c'est toujours bien d'en avoir. Chaque pince qui bouge devant lui, ça correspond à des dollars en plus sur son compte. Mais la mère, apparemment, si elle t'aime bien, elle te lâche pas. Elle te drague en permanence et tu as du mal à y résister. Lui avait une femme pourtant et des enfants, 3. Il les adorait. Il leur avait acheté une grande maison sur la côte, pas loin de sa maîtresse aqueuse, un plan à 3 avec sa femme. Elle l'aimait aussi, cette mère. Et elle ne la quitterait pour rien au monde. Elle venait de là, tout entière. Tout son sang était un mélange de courageux qui venaient de cette terre aride et ont été séduits au fil des prises de territoire et d'échanges commerciaux. Elle était d'une beauté unique et ses veines vibraient tel le bleu profond de la mer de Bering. C'était leur gagne-pain, leur raison de vivre et probablement cette mer serait aussi celle qui leur prendra un jour la vie. Appuyé contre la banquette rembourrée turquoise, il pensait à sa famille, à la terre ferme, où tout est sous contrôle, où tout est organisé et choisi, sur une terre où les ancêtres de ses enfants ont su partager leur savoir-faire et habituer leur corps aux conditions les plus extrêmes. Une terre qu'il avait choisie et adoptée, en laissant derrière lui une autre vie. Une vie où une autre femme sauvage lui avait fait prendre plusieurs fois la tasse avant de le laisser seul sur le rivage, sans explication et sans possibilité de remonter la marée. Elle n'avait pas laissé de lune ni de soleil pour que l'eau puisse à nouveau couler vers lui. Il ne se doutait pas qu'une fois sur terre, cette marée allait reprendre, l'embarquer d'une vague encore plus sauvage et lui laisser à peine le temps de trouver une petite embarcation pour se protéger un peu. Heureusement que c'est un bon marin, parce qu'il allait avoir besoin de bons réflexes pour dompter ses relents, qu'il croyait ne jamais revenir jusqu'à lui.
C'est Samy. Je te laisse un message. Tu me rappelleras. C'est important. C'est une nouvelle pour toi. Elisa m'a appelé. C'est elle qui m'a dit. J'ai reconnu sa voix de suite. Elle a même pas précisé que c'était elle. Elle est de ceux qui disent « c'est moi ». Elle avait gardé mon numéro. Moi, j'avais pas gardé le sien. J'ai décroché de suite. Même si je connaissais pas le numéro, normalement, aujourd'hui, je décroche plus, quand je connais pas le 06. Ils ont réussi à avoir nos numéros de portable. La dernière fois, on m'a laissé un message. Ils me faisaient croire que j'avais gagné un ordinateur avec ma nouvelle assurance. Mais j'avais pas pris de nouvelles assurances. Et je voulais pas qu'ils entrent dans mon téléphone. Sans que je leur ai demandé. Tu es aux chiottes et bam, on t'appelle. Tu es au travail et bam, on te démarche de partout. On te propose de tout. Là, j'étais prêt à décrocher, à envoyer toute ma colère au pauvre téléconseiller. Et quand j'ai entendu « c'est moi », mes nerfs sont redescendus. Mon cœur a fait un petit balancier et j'ai renfloué ma colère. La colère contre Elisa, j'en ai plus. Je lui en veux plus. J'ai digéré. Elle m'a laissé tomber sans explication. Juste parti, loin. Des fois, faut partir. Maintenant, on sait. À l'époque, on était juste dans la vie, en plein dedans, à tout découvrir sans recul, et ça faisait mal. Maintenant, le recul, il est là, tout le temps. Il te lâche jamais. Et ça protège. Tu sais que, quand je suis arrivé à Paris, je n'ai même pas pensé à elle. Je l'attendais plus. Non, tu le sais pas vraiment. Parce qu'à cette époque, toi aussi, tu étais plus là. Tu te cachais encore. Tu fuyais. J'étais entouré que de gens qui cherchaient ailleurs, s'ils y étaient. Et moi, j'étais toujours là. Je savais où j'étais, avec les étoiles, les boules massives qui éclairent le ciel quand il fait noir, celles qui te guident quand tu es dans la mer, le plasma et l'énergie lumineuse qui s'oppose à sa propre gravité. Et tout autour, les planètes. Et nous, dessus, l'une d'entre elles, à chercher dans tous les coins comment exister, en se posant deux ou trois fois dans l'année sur un plaid au milieu d'un champ, à regarder en haut, en distinguant notre micro-présence. Tout ce qu'il y a autour de nous prend une place permanente. Ce qu'il y a dans nos têtes, ce qu'il y a dans nos ventres, dans nos mains, devant nos yeux, ce qui se passe dans notre nez, c'est l'oxygène qui est là et qui permet qu'on tienne debout. Et dans la moiteur de l'été, on a toujours cet instant, avec la tête relevée par un petit gilet, où l'immensité de l'espace prend place dans nos cellules, et le vertige de ne pas savoir et ignorer tout ce qui n'est pas humain. Vous êtes tous partis, voire ailleurs. Et vos vies avancent, stagnent et font des allers-retours. Ma vie, elle est là-haut. Mais j'aimerais trop qu'on puisse y aller, qu'on rencontre ces autres formes, ces autres oxygènes. Savoir comment sont leurs matières. Est-ce que le coton existe là-bas? Sur quoi ils s'allongent, eux, en se rendant compte que leur existence n'est qu'une infime partie de méconnaissance généralisée et domptée par leur propre nature. Est-ce qu'ils abandonnent ce qu'ils aiment quand ils ne comprennent pas ce qui se passe en eux? Est-ce que l'ancienneté de leur présence dans l'univers les rend de plus en plus promptes à se regarder le nombril? Est-ce qu'ils ont un nombril? Un colon ombilical? J'ai passé ma vie dans les étoiles, et sous mes yeux, il y a des amas violets. Le sang qui palpite un peu trop, parce que je ne peux pas fermer les yeux la nuit. Je reste devant mes feuilles, et je recalcule à la main, et je redessine. Il faut qu'on trouve, et que je les regarde. En direct, c'est l'espoir. J'allume pas la télévision. Dans l'insomnie, je fais pas ça. Imagine, s'ils reçoivent nos signaux, ils ne verraient que des gens se crier après. Ne pas écouter et engranger de la haine et du repli sur soi, toujours sur soi. S'ils reçoivent nos ondes, eux, ils ne feraient pas la différence entre un journaliste qui tacle un député et une blonde qui arrache les cheveux d'une brune autour d'un centre de cuisine. Ils ne distingueraient pas le bikini rose fuchsia fabriqué en Chine du costume italien, le bac plus 8 du brevet des collèges. Ils ne verraient que des bouches toujours trop ouvertes et des crampes au creux des sourcils. Si un jour ils arrivent jusqu'à nous, ils se mettront à parler comme ça, à imiter nos comportements brutaux et irrespectueux, en pensant bien faire, et en pensant pouvoir se fondre dans le monde. Et dans ce cas-là, nous, tout ce qu'on sera capable de dire, c'est qu'ils sont agressifs, alors qu'eux tenteraient juste de nous imiter avec bienveillance pour communiquer. Imagine, ils arrivent par la mer Méditerranée. Ils verraient des barques, pleins de gens entassés, qui n'ont plus aucune intimité et qui essayent d'aller voir ailleurs s'ils peuvent être. Imagine, ils arrivent à cet endroit-là. Ils penseraient que les humains ont l'habitude d'avoir froid et d'être mouillés en permanence. Alors quand ils arriveraient sur Terre, ils feraient leurs besoins sans se cacher. Et nous, on dirait que c'est une espèce dégoûtante et que les extraterrestres, c'est sale, alors qu'ils ne feraient qu'imiter ce qu'on leur laisse se produire sur notre Terre, à des êtres humains. Ils verraient des gros bateaux à quai, et ils se demanderaient pourquoi les gros bateaux sont à quai, alors que des gens semblent vouloir les faire partir. Ils se demanderaient ce qui empêche l'humanité d'enlever la corde accrochée sur le port. Ils se diraient que la vie humaine, c'est pas d'être protégé au chaud, mais c'est être aux mains des éléments de la nature. Ils se diraient donc qu'on aime nos éléments et qu'on les respecte, que c'est pour ça qu'on n'utilise pas les gros bateaux, parce qu'on veut faire attention à la mer. C'est ça qu'ils se diraient, s'ils arrivent dans la mer Méditerranée. Ça doit te faire sourire d'entendre ça. Toi, c'est Bering, c'est autre chose. on est plus à l'aise. C'est autre chose. Lancer des cages de métal en profondeur pour remonter à la surface des êtres vivants qui n'ont rien demandé, qui étaient heureux avec leur famille dans les récifs. Faire remonter à la surface ceux qui veulent rester dans le noir et laisser ceux qui en ont besoin dans les abysses. Je connais ta vie. Je sais que tu fais ce que tu peux pour t'en sortir. Ni moi, ni les extraterrestres, on t'en voudra. J'en veux à personne. Je suis humain, et le crabe, j'aime ça. J'ai propension à penser comme si j'en faisais pas partie du tout, parce que je m'en suis éloigné. Mais j'ai une carcasse à nourrir, et on a une revanche sur la vie à prendre, nous deux. Alors chacun de notre côté, on a choisi une manière de faire. Ça me manque. Toi et moi, à côté du scooter, à regarder les gens passer et refaire le monde. On est en plein dedans maintenant, dans le monde. Rappelle-moi, c'est important. C'est une histoire de famille. Et pense à moi. Demain, je vois Elisa. C'est fou qu'elle appelle maintenant. Il y a 2 mois, je l'aurais pas vécu pareil. Il y a 2 mois, j'étais dans une autre vie. Depuis, je me morfonds. Mais sa voix, elle m'a rappelé que s'ils arrivent sur Paris, ils se demanderaient pourquoi je suis seul devant des feuilles raturées, alors qu'une jolie fille me propose de sourire. Ils se disent que les humains sont faits pour vivre seuls. Et j'ai beau refaire mes calculs, j'arrive pas à trouver une formule pour expliquer qu'un son de voix puisse atteindre mes organes si fort. J'ai peur de ne pas pouvoir sourire. J'ai peur que mes cernes prennent toute la place. On n'est plus à l'aise avec quelqu'un qui a l'air en bonne santé. Je le sais, c'est scientifiquement prouvé. Le premier instinct quand tu vois quelqu'un, il est toujours basé sur la reproduction. Et pour se reproduire, c'est la bonne santé qui prend le pas sur le reste. Et moi, je fais peine à voir. Je le sais. La lumière du jour, je la vois plus beaucoup. Et mon cœur, je suis pas sûr qu'il soit encore prêt. J'espère que je vais arriver à sourire. Ça fait plus de 2 mois que j'ai pas souri. Pour de vrai. Franchement, dans la joie.
La poignée du café était rectangulaire et ferme. Un doré clair avec des ombrages rosés. Il ne faisait pas froid dehors, mais un courant d'air accompagna le mouvement du bassin d'Elisa. Il appuyait contre la large poignée afin que son sac à main ne coince pas l'entrebâillement de la porte vitrée. Un petit souffle frais et bienveillant lui fit tourner la tête dans la bonne direction. Samy était là, à droite, assis sur la banquette face à elle, un t-shirt bleu roi cintré avec une veste de costume bleu marine. Il s'était bien habillé. Ses cheveux bouclés étaient courts et noirs, toujours noirs, et ses yeux en amande marron étaient cachés derrière des lunettes rectangulaires. Ils avaient des rides juste au coin. On les devinait. Il avait des cernes juste dessous. On les voyait bien. Ses joues étaient rebondies. Il ne souriait pas. Mais elle, même lorsqu'elle apparut, fraîche, avenante et maladroite. La porte rebondissant sur sa hanche. De son côté à lui, pas une trace de joie, pas d'attention particulière. Les doigts qui frappent la table en rythme, comme s'il écrivait dans le vide. Lorsqu'elle s'assit en face de lui, un frisson lui fit régurgiter un petit souffle et ses sourcils se tendirent sur son front. Ses sourcils à lui ne froncèrent pas.
Oh, pardon, je... on se fait la bise, non? Quand même. Comment vas-tu? Moi, je... Je vais bien. Je suis contente de te voir. C'est bien que tu sois à Paris, c'est... plus pratique. Je savais pas. Mais c'est drôle quand même, on s'est jamais croisés avant. En même temps, Paris, c'est grand, hein. C'est fou, on te reconnaît. Enfin, je veux dire, t'as pas changé. Je vais prendre la même chose que toi. Le serveur... Oui, je vais prendre pareil que lui. Merci. Je... en vrai, ça me fait plaisir. C'est drôle de te voir en veste. Ça te va bien, tu fais adulte. En même temps... Tu as eu des nouvelles de Karim ? Il a pu revenir sur Terre ? C'est fou. Sur la mer, Karim. Non mais je le vois trop là, avec son bonnet enfoncé sur le front, le ciré par-dessus. Moi je le vois trop ne pas avoir peur de la vague et crier après les crabes. Les attraper délicatement et veiller à ce que personne ne leur fasse de mal, enfin, jusqu'à ce qu'on les mange, goulûment. Prendre soin d'un produit de qualité, d'une rareté et d'une pureté parfaite. Dans le blanc, dans la classe, le froid. Je le vois trop en doudoune avec des petites gerçures sur le bout des doigts, manger des salades de pommes de terre et faire la course avec des ours blancs. Il leur ferait des câlins, tout en jouant au dur. Le meilleur compagnon de bord. Ils doivent rire avec lui sur le bateau. Ils doivent être en confiance. Avec des Américains. Karim, en Amérique, moi j'en reviens pas. Tu l'as vu, tu lui as parlé? L'Alaska. Mais tu sais pourquoi il est parti au final? 10 ans là-bas, hein? Et tout le monde au quartier qui faisait des rumeurs, là, tu te souviens? Même moi, même toi, tu savais pas où il était. Mais il vous a raconté quand... Enfin, t'y allais, ça va? Enfin, tu vas bien? T'es tout calme? T'as jamais été très bavard, mais... tu vas bien?
Pardon, j'ai mal dormi. Je dors mal. J'ai les yeux qui me tombent sur les joues. Je dois avoir une drôle de tête. J'étais moins fatigué avant. J'ai pas eu Karim. J'ai laissé un message et sa femme m'a raconté. Je lui ai pas raconté, j'y suis pas arrivé. Mais j'ai leur adresse. Il peut y aller s'il veut. C'est un grand voyage. Le temps qu'il arrive, Karim sera chez lui. C'est beau là-bas. J'y suis allé une fois pour une conférence, c'est grand. On sait depuis 6 ans qu'il est là-bas. Il était revenu un été en France. Quand sa femme était enceinte du premier pour lui présenter la famille. C'est elle qui voulait, c'est naturel, elle voulait savoir d'où viennent les gènes qui grandissaient avec elle. Elle a vu le parc et la barre d'immeubles. On est même passé devant la MJC. Elle a bien aimé. Ça manquait un peu de vagues pour elle. J'étais redescendu sur Bron pour l'occasion. Je prends pas beaucoup de vacances. Je travaille beaucoup. Et je suis beaucoup chez moi, je sors plus trop. Ça se voit, non? Je suis pâle. Je reste beaucoup chez moi. Je regarde par la fenêtre et il y a des millions de réalités qui se cumulent. Tu sais, tu es dans ton appartement, ton petit cocon. Tu as réussi à te créer tes rituels, ta survie dans tout le marasme des possibilités, sur ton canapé, les muscles qui se relâchent contre la ouate, et les couleurs de tes coussins et leur douceur. Il suffit de bouger un peu la tête pour voir la fenêtre et regarder. Les voiles de tes rideaux qui essayent de cacher ton intérieur et la lumière du jour qui se reflète et fait vivre tout ce qui est dehors. De plus en plus tendre devient ta chair, de plus en plus vif se fait l'air du dehors, d'autres fenêtres fermées, des entrouvertes. Et au fur et à mesure que tombe la nuit, les lampes qui dévoilent ce que les voilages ne peuvent plus retenir. Et ma réalité à moi qui se lève, en vrai, je sais pas si je vais bien. Je suis pas sûr d'être heureux. Je me pose pas la question. J'avance. J'ai pas de temps. Il va venir? L'enfant? Le garçon? Tu crois qu'il faudrait que je le voie avant qu'il parte? Tu vas y aller avec lui? Comment vous allez faire? Et Meghan, elle est au courant?
Non. Meghan n'était pas au courant. Elle ne savait pas qu'Elisa n'avait pas tenu 500 mètres en voiture avant d'avouer à Jean qu'elle avait reconnu qui était son père et qu'elle savait comment le retrouver. Meghan devait se mentir à elle-même. Elle n'avait pas reconnu Karim en Jean. Le pouvoir du cerveau qui fourvoie. Tous les instincts quand il ne veut pas voir. Quand on n'est pas prêt, alors que ça saute aux yeux. Jean ne tenait pas à ce que Meghan le sache et Elisa ne voulait pas avoir cette conversation avec sa cousine. Jean ne cherchait pas des parents, il en avait déjà. Il ne voulait réunifier personne. Il voulait juste voir d'où il venait. Il ne cherchait pas une famille, juste une vérité. Elisa n'avait pas hésité, ça coulait de source. Ça ne pouvait plus attendre. Jean avait voulu dormir chez elle pour être là quand elle l'appellerait. Elle n'avait jamais effacé le numéro de téléphone de Samy. Elle avait toujours eu besoin de l'avoir à portée de main comme un doudou. Lorsqu'elle prenait rendez-vous chez son docteur, qui s'appelait Sana, elle voyait toujours le prénom Samy sur son écran. Et elle se rappelait alors qu'un jour, elle avait accepté un peu l'amour. Alors, en appuyant sur la petite icône qui imitait un téléphone vibrant, elle eut d'un coup une appréhension. Le regard plein d'espoir de Jean remit à plat ses hauts le cœur, ses hauts le cœur de trentenaire en mal d'amour, et la réengagea sur le besoin d'un ado en quête de réponse. Samy décrocha de suite, et après avoir accroché, Elisa ouvrit sa boîte à photos, où Jean put découvrir les visages de ses créateurs, en jogging fluo et banane en viscose. Il n'y avait aucun doute. Il avait sa réponse. Jean découvrait le visage enfantin de Mégane, avec du bleu turquoise sur les paupières, et Karim, posé à côté de son scooter. Les mêmes cheveux, les mêmes yeux, la même confiance, le charme au plus haut. Et Elisa, qui cachait sa tête tout en arborant fièrement son t-shirt Waikiki. Samy en soupule et lunettes à double foyer sur la pelouse. Les photos défilaient et tandis que Jean se familiarisait avec les siens, Elisa se demandait ce qu'il ne s'était pas passé dans sa vie pour que la jeune fille qu'elle était sur la photo n'ait pas atteint les rêves qu'elle avait alors. Elle habitait à plus de 500 kilomètres des siens. Sa vie défilait sur une page blanche et bleue, une page rouge et jaune, et entre les lignes des tableaux Excel qu'elle produisait pour gérer les événements des autres. Samy revenait de plus en plus sur les photos et dans la nuit qui suivit, il revint de plus en plus dans les pensées d'Elisa. Ils avaient une bonne excuse pour se voir, et la vérité faisait bien les choses.
Il aurait voulu te voir, mais il peut pas, il doit aller au lycée. Et je me suis dit que c'était mieux d'en parler entre nous avant. Entre adultes, parce que c'est nous maintenant, hein, ceux qui prennent des décisions. On n'a plus d'excuses, plus l'excuse de la jeunesse. Aïe, yeah, on est dans la transition. Entre ceux qu'on dit vieux et ceux qu'on dit jeunes. Si tu as des cernes, c'est que le sommeil, il te quitte pas bien. Faut que tu te raccommodes avec lui. Moi, je dors, mais je rêve plus. J'ai trop rêvé. Trop imaginé dans ma vie, je crois que c'est ça. Et là, il n'y a plus rien qui vient, juste moi et moi-même. Et on est dans la merde, hein, parce que tout ce qui m'est arrivé avant, j'ai l'impression que c'était dans ma tête. Alors, de l'expérience, j'en ai, mais il faut juste que je la partage. Les autres, je les ai beaucoup écoutés. Et j'ai toujours été de bons conseils, à savoir qu'il faut dire juste et répéter. Comment, parfois, vraiment plusieurs fois, il faut répéter les vérités que l'autre ne veut pas voir. Juste être patiente et tendre la main jusqu'à ce que celui d'en face s'agrippe bien. Il faut d'abord qu'il voit que ta main est tendue, puis qu'il décrispe les muscles de la sienne, que ses signaux n'aillent pas tout juste dans son cerveau. Il faut qu'il libère un canal pour que le signal nerveux lui fasse tendre la paume. Certains commencent par une prise molle, puis d'autres y vont franchement, en confiance. Et toi, tu gardes leurs mains vers toi et tu les accompagnes. Tu n'es pas d'accord parfois, hein. Mais dans l'amitié, il faut savoir laisser les autres se tromper en tendant toujours les phalanges pour qu'on sache que tu rattraperas quoi qu'il se passe. Alors j'écoute et je rêve plus. Je crois que j'ai toujours éloigné la réalité de ma vie. Parce que ma vérité, elle va trop vite pour les autres. Et elle se situe à un endroit où personne ne peut me consoler. Je me souviens, toi et moi. Je me souviens que tu allumais la lumière quand la nuit tombait et que mes yeux allaient fatiguer. Que tu mettais une main au creux de mes reins quand je sortais d'une pièce. Que tu me regardais dans les yeux et que je n'accéderais pas à tout en toi. Mais je pouvais me reposer dans tes pupilles quelques instants. Comme les muscles dans le canapé. Et je laissais faire. Et j'allais faire tes courses quand tu devais garder ton petit frère. Et quand je rentrais, tu étais là. Ça ressemblait pas à un rêve. Et j'aimais bien me lever le matin, avoir une raison de se lever. Parfois, j'entends mon voisin. Les murs sont fins. Je l'entends le matin se réveiller, marcher, ouvrir sa fenêtre. Je l'entends râler. Mais je ne râle même pas. Je fais juste ce qu'il faut. J'ai le teint frais. Je sais. J'ai des couleurs et pas trop de rides. Parce qu'une fois que je suis sortie du lit, je tente de créer des moments avec des sensations. Et cacher l'attente, la fourvoyer en mettant le focus ailleurs, quitte à se perdre. Et tenir. Ne pas aller trop vite. Alors, j'ai du rouge dans les joues, mais tu peux pas tout contrôler. Il y a forcément quelque chose qui relâche. Moi, j'ai le corps qui rattrape et qui va au bord de l'implosion, qui dit la vérité pour moi. Je te regarde dans les yeux et je vois que la porte est toujours entrouverte. Entre nous deux. Je le vois. Je le sens aussi. C'est chimique peut-être, neurologique, les phéromones qu'on renvoie. Tu sais ça, toi? Mais nous, on n'est pas comme les animaux. On se saute pas dessus. Faut attendre. Encore. Toujours ce temps d'avance. Tu le sais. Tu me connais. Ces jours, ces semaines, ces mois, à savoir et devoir. Attendre. Sous tes cernes et les lunettes, autour de tes doigts qui tapotent et du pincement de tes lèvres, je sais, au même endroit, au même moment, avec les mêmes envies, les blessures éparses, vécues, et bientôt évacuées, et on vivrait. Parce que l'attente, c'est pas une vie, c'est attendre, avoir de l'espoir, toujours. C'est pas une vie. Ne pas aller trop vite et respecter. Et le timing, ce putain de timing qui ne sera jamais bon en fait. Hein. Jamais. Toujours trop en avance ou en retard. Jamais au bon moment. Tu le sais, toi, nos moments. Et la vulgarité des autres qui tombent juste eux. J'aimerais vraiment savoir gérer le temps. J'ai l'impression de vivre dans un jet lag permanent, jamais sur le bon fuseau horaire. Et toi, tu as été le bon steward. Et là, ben c'est pas rassurant, c'est juste agréable. Ça, cette chose-là, entre nous. Je veux te donner le mode d'emploi, parce que maintenant je l'ai. La dernière fois, je l'avais pas, je savais pas comment je marchais. J'étais au début d'être moi. Là, je sais mieux qui je suis. Parce que j'ai la carapace qui s'est endurcie et elle devient de plus en plus dure. Et en plus du temps. Il faudra des lunettes de super-héros, hein, celles que tu fabriques pour les extraterrestres. Pas juste rectangulaires pour cacher tes cernes. Celles où on voit à travers. Et insister. Poser les paniers au bon endroit et attendre que ça prenne. S'arrêter dans les abysses et deviner l'or. Même dans les profondeurs. Aller jusqu'à l'Alaska. Moi, j'ai pas d'autre espoir. Pour me trouver, il faut chercher. Ne pas s'arrêter à la première complication, à la première chose qui cloche. Je suis une cloche tout entière. Pour notre histoire, c'est moi qui avais vu trop tôt trop de choses. Que le temps aurait pu faire avancer autrement. J'avais trop deviné. Et un obstacle de plus. Mais ne te pavane pas dans ton malheur. Hein. Tu penses exister autrement que dans ça. Je t'ai regardé en souriant. Et senti que tu avais suivi mon mouvement de hanche quand je suis entrée dans la pièce. Chez toi, c'est juste une bataille de flux. Mais je suis à l'écoute. Je vais me brancher sur le bon canal. Tant pis si j'en ai trop dit. Si je te fais peur, je suis comme ça. On te demande toujours de cacher qui tu es quand tu rencontres quelqu'un. Il y a plein de codes établis qui t'empêchent d'écouter ce que tu veux vraiment. Ne pas trop montrer, trop dire, trop faire attention, se brancher sur le bon canal et suivre la route qu'on t'indique. Mais à toi, je veux le dire, nos chalutiers, ils sont à la mer. Ce sont pas des petits bateaux. Ils sont costauds. On a pris le temps de bien faire. On a eu la chance de naître au bon endroit pour avoir des fondations solides. La marée est prometteuse. Il faut juste que tu acceptes de tendre la main, qu'on utilise la VHF et qu'on pose les paniers au bon endroit. Moi, je quitte le port. J'arrive.
To kiss someone, to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're a rendezvous rate. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you said.
Il est 13h38, vous êtes toujours sur le théâtre de la Gamelle sur Radio Canu. On reprend tout de suite « Elles y croient qu'elles peuvent voler » par Eva Natalia Grenier.
Je crois que j'aimerais bien. Ouais, ça, j'aimerais, mais il y a un mais. Je suis désolé. Quand tu m'as appelé, j'ai senti que tout ça, ça remontait à la surface. Mais ça peut pas circuler en moi. Pas encore. Moi, mon bateau, il vient de prendre l'eau. En fait, j'ai un problème au moteur. Je viens de me séparer. En fait, elle est toujours un peu en moi. En fait, je peux pas le voir, ton bateau. Je suis dans le brouillard. Mon radar, il est encore sous l'eau. Même si tu te branches dessus, ça captera pas. Je viens de couler et il faut que je sèche le pont avant de pouvoir redémarrer. Sinon, les circuits vont brûler. En fait, elle est partie il y a pas longtemps. On habitait ensemble. C'était parfait, nous deux. C'était nous deux et le monde autour. Elle était biologiste. Elle l'est toujours. Elle étudie le Physarum polycephalum. Le blob. T'en as entendu parler ? C'est ça qui nous a rapprochés au départ, parce que moi, je suis persuadé que l'espèce la plus évoluée sur Terre, c'est le blob. Elle faisait une conférence, je suis allé lui parler après. J'ai été courageux, j'ai pas eu de doute, aucun. Puis, c'était bien. J'étais sûr que c'était la bonne. Tu sais, on dit la bonne. Être bon, c'est être à l'endroit qu'il faut. C'est avoir de la bienveillance. C'est être juste. Nous, on a de la chance. On est une seule et même espèce. Donc ça devrait être facile d'être bon. Le blob, lui, il a 1000 espèces différentes. Et 221 sexes, pour lui.
Waouh.
C'est plus compliqué. Il est immortel. Tu peux le couper, il mettra 2 minutes pour revivre. Moi, je me suis séparé il y a 2 mois et je digère toujours pas. Tu peux le rescinder et il se réunifie sans se poser de questions. Moi, je me pose plein de questions quand je la revois. Tu peux le brûler, lui tirer dessus, il meurt pas. S'il a faim ou qu'il est trop exposé à la lumière, il va sécher. Il peut rester sec pendant des années. Puis il suffit de le mouiller un peu pour qu'il reprenne ses fonctions, sans séquelles. Il n'a pas d'yeux, pas de neurones, pas de cerveau, pas de système nerveux. Il a des couleurs chatoyantes. Il a une seule cellule qui a toutes les fonctions. Il se nourrit en éparpillant ses veines dans l'espace, afin d'absorber les nutriments, en mettant en place une excroissance fractale qui a conscience de l'espace et du temps. Il est visqueux. C'est un objet rampant, non identifié. C'est pas un champignon, pas une plante, pas un animal. Il ne ressemble à rien, mais il est plus fort que tout. Il est complexement simple. Elle est partie avec un mec aux cheveux longs, un avec des bagues aux doigts, qui prend toute la place quand il entre dans une pièce et se trompe en permanence, qui en voulant en faire trop, passe à côté de sa propre vérité. Un qui a tous les codes. Il est sur les réseaux tout le temps. À choper au vol la moindre influence pour la réingérer dans sa vie. Un de ceux qui savent faire et qui croient être juste et bon, mais qui n'enlèvent jamais leurs lunettes de soleil pour y voir clair. Ceux qui prennent de la coke parce qu'on dit pas non à ses amis, pas parce qu'ils ont besoin d'un stimulant. De ceux qui disent fort qu'ils sont malheureux, sans pudeur, pour appâter, qui ne regardent jamais en arrière et autour duquel toutes les filles se pâment. Son impertinence, c'est d'évider de ton regard quand il parle. Son originalité, c'est de savoir rire au bon moment. Il ne cherche pas à être aveugle et sourd aux sentiments des autres, mais il écoute trop les siens pour apercevoir qu'en face, il y a de vrais gens. Lui, c'est le contraire du blob. Il est d'une espèce bien déterminée et reconnaissable. Le cliché générationnel de la digestion de nos rébellions ancestrales, qui rumine l'originalité en étant un prototype marketé par l'industrie du rocker romantique éperdu. Elle est partie pour lui. Il chantait Unintended dans sa tête. Il sera là dès qu'il pourra. Il est occupé à réparer les morceaux cassés de la vie qu'il avait avant. Et elle a eu envie de le croire. Parce que quelqu'un qui va mal, ça rassure. Ça veut dire que nous, on va mieux. Mais lui, il réparera jamais sa vie d'avant. Parce que c'est plus gros que lui. Le mensonge de toute une génération, que lui, il se pose pas les bonnes questions. Et il lance pas ses veines à la recherche de nutriments, il les met au service de sa mélancolie, qu'il nourrira sans cesse, en vampirisant des filles bien, les fatiguant une à une jusqu'à ce qu'il se relève jamais à lui-même. C'est sûr que moi, à côté, je faisais plus l'affaire. Moi, j'allais bien, il n'y avait rien à réparer. Moi, je proposais des solutions pour avancer et voir plus loin que notre nombril. Elle en a eu marre. C'est ce que je me disais, parce que c'est fatigant de trop vouloir le bien, d'avancer. Les gens, ils veulent reculer en ce moment. Ils veulent retourner aux sources. Ils veulent pas être en harmonie avec leur temps et se rassurer avec de bons vieux adages et des choses déjà vues. La nouveauté, c'est le risque. Avancer, c'est soit prendre un lourd sac à dos, soit juste une boussole. Et ça demande de la force ou du courage. Ça demande même les deux. Avancer, c'est ne pas regarder en arrière, mais faire avec. Donc elle est partie. Avec quelqu'un qui ressasse ses vieilles erreurs et retombera dans la facilité et la perpétuité. Et en partant, elle a pris avec elle un boulon qui faisait tenir le moteur. Et aujourd'hui, c'est les morceaux de ma vie à moi qu'il faut que je remonte. C'est moi qui te chante Unintended. C'est le serpent qui se mord la queue. Et tous mes beaux discours, ils s'évaporent au contact de mes sensations. Les sentiments qui prennent le pas sur la raison. Et mes belles idées qui ne sont rien sans un cerveau sain. Des neurones qui vibrent au son d'une peine de cœur. C'était ma plus grande frayeur. J'avais lâché du lest. J'avais enlevé le barbelé des barricades. J'ai pris pour acquis qu'elle serait toujours là, avec moi, sans me remettre en cause. En étant moi-même, sans me soucier de qui elle devenait. De nos envies qui n'étaient plus les mêmes. En vrai, je ne peut pas lui en vouloir de désirer un homme qui la regarde, un homme qui exprime clairement ses besoins et qui tente, malgré son aveuglement, de la rendre heureuse et qui partage le bonheur. Je ne peux pas leur en vouloir de suivre la tendance et d'être rassurée, de rire aux éclats, et qu'elle se sente belle. Avec moi, elle avait pour concurrence les étoiles. Je quitte le lit pour les voir. Ma langue passait de ses muqueuses aux bételgeuses. Mes doigts tapotaient sa peau, puis la calculette. Ma langue tâtonnait mon stylo, après m'avoir fourmillé dans sa bouche. Je peux pas lui en vouloir. C'est moi. Et toi, tu es là, pleine d'espoir dans tes yeux, et je sais que tu as raison, mais j'ai peur. Parce que je ne peux pas te promettre toute mon attention. Parce que je ne vais pas pouvoir ouvrir les barricades tout de suite. J'ai même rajouté des barbelés. Et c'est injuste de te demander d'attendre. Tes yeux, ils sont trop beaux pour ça. Je le vois. Toi, tu mérites tout le répertoire d'Elton John. Pas une chanson qui te dit que tu pourras être l'élu et qui comporte beaucoup trop de mais.
Ils se quittèrent un peu gênés. À la sortie du café, ils se firent une bise maladroite et faisaient durer leur au revoir par les détails à prévoir afin d'accompagner leur mission au mieux. Leur mission qui était de réunir Jean et Karim, un père et un fils. Ce n'était pas leur histoire à eux. Eux, ils étaient des personnages secondaires dans cette dramaturgie et cela les arrangeait de laisser au second plan leur problématique fiévreuse, pleine de désirs, frustrés par l'incapacité humaine à guérir vite.
Tout qui surgit dans toi et le surplus de tout ce qu'il y a autour et l'envie que tout soit plein et vide à la fois, le juste milieu, c'est un papillon qui ne se forme pas, qui reste mi-larve, mi-coquille, mi-aile, sans pouvoir ramper ni voler, qui stagne dans l'air, l'air qui part, qui devient gris, pas clair, hein, qui est foncé et qui perd sa force vitale. Autour, tout autour, il y a des choses qui vivent et qui existent. Tu les vois. On te les apprend à l'école. Tu les sens. On te les marmonne à la télé. Tu devines. On te les scande à la radio. Tu te doutes que... On l'écrit dans les journaux. Tu connais le goût. Une moitié de couleur fade face à un bleu vif, un rouge sanguinolent. La face pas tiède. Tes artères sont bloquées. L'information ne passe plus. Ou trop vite. Et tes sens courent vite en toi, très vite. Tu oublies la biologie, comment ça marche, la sueur déborde et le souffle halète et les sourcils se froncent. Tu fais la grosse grimace et les sons sortent malgré toi. Les bruits, les gestes. Pas lentement, pas doucement. Tu regardes à droite si la bête est là, si elle rôde et cherche à venir t'astiquer le bout de quelque chose. Ténébreuse bête. Tu regardes à gauche et devines l'agneau tendre qui bêle à t'en faire rire, à t'en faire des pulls, à t'en faire un repas du dimanche. L'agneau te regarde et tremble. De l'autre côté, la bête te regarde et tremble. Tu te regardes et trembles et devines que tu essayes juste de respirer, de penser, trier les sensations et choisir. Haletant et vif, calme et doucereux. Quand ça palpite, tes yeux s'orbitent et virent dans le luxe de la précipitation, l'instant vorace qui prend la place de tout au lieu de reste. Plus question de reste, juste l'instant face à toi. Trier les sensations.
Les parents de Jean souhaitaient rencontrer Samy et Elisa pour organiser, pour vérifier qui ils étaient. Ils se sont donc rendus à Maison Alfort, bouquet de fleurs, dessert et bouteille de vin sous le bras. Pas main dans la main, mais côte à côte. Elisa souhaitait secrètement que les passants les voient comme un couple, un homme et une femme, rendant visite à leur famille un dimanche, qui annoncerait même peut-être une bonne nouvelle. Samy n'était pas en reste. Leur cœur était serré et leur gorge n'était pas déliée. Chacun de leur côté, ils se rappelaient les vœux qu'ils s'étaient faits à 18 ans et se retrouvaient dans un des fantasmes qu'ils s'étaient créés au bord du lit de jeune fille d'Elisa. Quand ils parlaient de leur vie future, du « quand on sera grand », ces deux dernières semaines, ils s'endormaient chaque nuit en recevant un bonne nuit de l'autre. Le point final, au bout d'un long échange de textos concernant les marées et l'emploi du temps de Karim, les vacances scolaires de la zone A, les précautions météorologiques et autres petits détails qui permettraient à un jeune Français de 16 ans de survivre en Alaska. Il se réveillait en pensant à l'autre avec des émoticônes igloo ou poisson sur leur écran. Tous leurs sens s'étaient dédoublés. Avec l'arrivée de Samy, toute la dialectique quotidienne d'Elisa prenait une conjugaison pleine d'espoir et de futurs composés. Arrivé sur le pas de la porte, il fut accueilli par les parents de Jean. Le repas, la discussion et l'après-midi fut émouvante, pleine de rire et de douceur. Megan fut mentionnée à plusieurs reprises et Jean ne souhaitait toujours pas la prévenir de son voyage. Il voulait avoir son père biologique pour lui tout seul. Rassembler les pièces pour ensuite voir si le tableau était assez cohérent pour en faire une belle histoire. Chacun respectait les désirs de ce principal intéressé et se mettait à son service. Il avait même décidé de ne pas prévenir ses innombrables followers de son voyage, tout en préparant un vlog qu'il mettrait en ligne par la suite. En jouant au petit couple parfait, Elisa et Samy se rapprochaient de plus en plus. Et leur petit jeu devenait réalité. Main sur le genou, clin d'œil, aparté et connivence. Ils reprenaient leurs habitudes malgré eux, tout en se retenant d'y prendre conscience. Et c'est au tour d'un vieux puzzle d'Aladin et son génie, retrouvé dans la chambre de Jean, que les deux timides expièrent leurs sensations retenues. Devant la table en bois de chêne du grand salon, ils disposèrent les pièces éparpillées du jeu par couleur. La vision de tous ces tas séparés par ressemblance, qui allaient s'assembler et former un tout harmonieux et distinct, faisait monter en eux une sève palpitante. Samy laissa Elisa déposer les coins aux quatre bouts de la table, tandis que Jean, avachi sur le canapé, recherchait un tuto pour fabriquer des fontaines d'objets dans un montage vidéo. Les parents de Jean étaient partis en trombe aider leurs voisins suite à un arbre mal scié qui fit des dégâts sur leur abri à vélo en commun. Seuls, autour de la table, Elisa et Samy commençaient à imbriquer certaines pièces dans d'autres, et à chaque trouvaille d'un ovale correspondant à la courbe qui pouvait l'accueillir, ils se réjouissaient. Et leur corps entrait dans une transe incongrue. Des petits rires commençaient à sortir de leur gorge, leur souffle se reprenait, leurs membres s'effleuraient au rythme des formes qui se créaient devant eux. Et le plaisir de voir la houppette du génie, le petit gilet rouge d'Abou et le grand sourire d'Aladin apparaître nourrissaient leur cœur et les emmenait vers un plaisir de plus en plus évident et partagé. Le soir même, dans la chambre de Samy, les draps étaient sales et la lumière douce. Retournement. L'eau coule plus fort. Le sang gonfle un peu plus. La chambre est une forêt, sage et sauvage. Des yeux qui ne se quittent pas. Et devine. Et envoie des signaux aux commissures des lèvres qui se contractent pour sourire, pour approcher plus près. La langue veut échapper, le palais brûle, et ils parlent. C'est leur façon à eux. Ils fondent. Une guimauve qu'ils essaient de contenir pour faire envie. Un ourson au chocolat, 50 centimes à la boulangerie. C'est ce qu'ils valent là maintenant, là tout de suite. Un peu plus qu'une fraise Tagada, un peu moins qu'un carambar. Pas de blague, pas de papier autour d'eux. Douceur dans le présent de toi et l'autre. Le lendemain, Elisa s'éveilla comblée dans un appartement vide, sans aucun émoticône sur son écran, aucun papier traînant sur un quelconque coin de table. Aucun Samy. Ils ne s'envoyèrent pas de messages. Ils n'avaient pas frotté la lampe du génie assez fort malgré leurs allers-retours incessants sur le dessin du puzzle. Le temps reprit place. Les espoirs s'évanouirent. mais les étoiles continuaient de briller. Plus le départ de Jean approchait, plus leurs échanges devenaient succincts. L'accident de moteur de Samy s'aggravait, et il se retrouvait coincé dans une incapacité complète à communiquer, hors de ses sentiers professionnels. Elisa sombrait de plus en plus profond dans une eau de plus en plus boueuse et lourde. Ils avaient pris peur et s'engluaient dans un quotidien qui les paralysait, chacun de leur côté, sans qu'aucun n'ose tourner le bouton de la VHF, afin de réouvrir le bon canal et de partir ensemble à la pêche au trésor.
First day of my life, swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Everything changed, you felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you. And I'd probably be happy. So if you wanna be with me, if these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me.
Voilà, c'était « Elles y croient qu'elles peuvent voler », épisode 4. « Des gilets de sécurité sont situés sous vos sièges », écrit par Eva Natalia Grenier. Cette radio, cette saga radiophonique écrite spécialement pour Radio Canu et pour ses auditeurs et auditrices.